Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à queue nue dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins tout bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si je savais que j'en aurais les traînes.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Transistor. Vous écoutez le nouvel épisode de l'émission Les yeux ont des oreilles, qui nous emmène sur les traces du jazz en littérature, avec des lectures de Pierre et Rémi. Bonjour.
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 Les mailles, les émaux du jazz, les mots de la littérature. On ne saurait insister suffisamment sur la fraternité qui unit le jazz et la poésie, notamment depuis l'entre-deux-guerres. Louis Aragon, Robert Desnos et Michel Léris fréquentaient les clubs de jazz parisiens. Louis-Ferdinand Céline, qui avait pour désir de faire swinguer la langue, remarquait en 1947 « le jazz était du nouveau ». Dans les années 60, les écrivains américains de la Beat Generation, Jacques Kerouac et Allen Ginsberg, se sont épris de cette musique en liberté inconditionnelle, en mouvement perpétuel, allant même jusqu'à enregistrer avec des musiciens. Poésie et jazz se mêlent, se questionnent, se répondent. Du jazz, les écrivains ont parfois capté l'esprit, emprunté la pulsation, mais aussi l'improvisation, le phrasé, ou alors en ont simplement décrit et commenté les manifestations proprement musicales. C'est de cette fusion exaltante qu'il va être question sur Transistor. Et nous commençons avec le livre « Jazz et cinéma », écrit en 1955 pour une émission télévisée de Frédéric Rossif, qui est un des nombreux exemples de l'amour que Boris Vian portait au jazz.
Que le jazz soit LA musique du XXe siècle, voilà sans doute une affirmation contestable. Mais qu'il soit une musique du XXe siècle, c'est ce que personne ne peut songer à nier. Il est né vers 1900 à la Nouvelle-Orléans, de la rencontre d'éléments disparates. Entre autres, le climat, la présence des Noirs descendants des esclaves et l'atmosphère mi-française mi-espagnole d'une ville d'escale où les marins en quête de plaisir savaient trouver plus de musique, plus de femmes et plus de liberté qu'ailleurs. Il a grandi dans les guinguettes du lac Pontchartrain et dans les mauvais lieux de la cité du Croissant. Comme une lente traînée de poudre, il a remonté le Mississippi, donnant naissance, au passage, à des bâtards bien reconnaissables. Le jazz de Memphis, celui de Kansas City. Puis, par le fleuve de fer, il a rejoint Chicago et New York et répandu, aux quatre coins de l'Amérique, la pulsation des batteries, petite fille lointaine du tam-tam d'Afrique. Vulgarisé par le disque et la radio, il a pris son plein essor en même temps que se développaient ces deux techniques. À toute vapeur, il a gagné l'ancien continent et s'est insinué de par le monde entier comme la locomotive au siècle dernier. Ses ancêtres d'une certaine forme de jazz que sont les champs de travail ont d'ailleurs souvent pris pour thème la construction de voies ferrées. Au reste, il y aurait une étude à écrire sur la conjonction jazz-chemin de fer. Tant de morceaux furent inspirés par le rail que l'on pourrait poser le problème suivant. Connaissant le Daybreak Express d'Ellington ou le Honky Tonk Train Blues de Mid Lux Lewis, en déduire la longueur d'un rail normal. On se demande ce qu'auraient fait les amateurs de musique imitative si, comme cela se répand de plus en plus, on avait, dès 1900, soudé les rails en longueur continue de plusieurs centaines de mètres. Adieu les chocs sur les raccords, adieu le chant des éclisses. Mais les rails n'ont que 18 mètres, et le boogie-woogie, qui n'existerait peut-être pas sans cela, est roi sous les doigts de Mid Lux Lewis. Le jazz, musique du siècle, a sa place dans le siècle. C'est une erreur que de vouloir l'isoler, comme on fait maintenant sur la scène du concert, en retrait de la foule. Le jazz est un reflet permanent de la vie quotidienne. Il n'a que faire des salons. On l'appelle musique d'action. Il nous semble qu'une musique digne de ce nom reste une musique tout court, et se suffit à elle-même. Et c'est justement parce qu'il apporte quelque chose que le jazz, lorsqu'on le superpose à l'image, peut y ajouter. On dit musique de film, et on évoque, trop souvent, avec juste raison, une patte sonore insipide et sans relief qui se faufile dans les trous du silence que nos yeux laissent à nos oreilles. Mais une musique de film réussie est capable, dans tous les cas, de vivre indépendamment du film. une vie autonome. Il suffit de se rappeler la remarquable partition composée par Alex North pour « Un tramway nommé Désir », partition nourrie de jazz et qui supporte à merveille une audition séparée des images. De même, une musique telle que celle composée par André Oder pour « Autour d'un récif », un des plus beaux courts-métrages de Cousteau, ajoute, on peut le dire, à la photographie. Comme un verre grossissant, elle permet à l'œil de fouiller plus avant le tableau et donne une vie nouvelle au fantôme du bromure d'argent. Aux origines du jazz, on trouve les rythmes africains, chantés ici par Léopold Sédar Senghor.
Joal, je me rappelle. Je me rappelle les signards à l'ombre verte des vérandas, les signards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kouba Endofen voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les destins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantum ergo, et les processions, et les palmes, et les actes de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte, oh la danse finale des jeunes hommes, bustes, penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes, Corsica. Je me rappelle, ma tête rythmant. Qu'elle marche lasse le long des jours d'Europe où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Paru en 1995, Bebop de Christian Gailly raconte la rencontre entre un jeune musicien de jazz, Basile Loretou, et un quinquagénaire qui a rompu avec la musique 30 ans auparavant. Questionné par Jazz Magazine en 1997 sur l'influence du jazz sur son écriture, Christian Gailly répondait « J'écris presque comme je parle, et quand je parle, c'est comme si je chantais, et quand je chante, c'est toujours comme un blues. » Dans cet extrait, Loretou dévoile ses talents de musicien lors d'une improvisation risquée, tandis que la langue de Gailly fait danser le texte et vibrer le lecteur.
Le soir où Cécile et Loretou se sont connus, la rythmique tournait très bien. On a toujours du mal. Enfin moi, j'ai toujours du mal à dire pourquoi une rythmique tourne bien. Mais quand elle tourne bien, même n'y connaissant rien, peut-être même surtout quand on n'y connaît rien, on l'entend, on le sent. Les musiciens aussi le sentent. Ils se regardent, ils ont le sourire. Patrick Piano, un blond, clairsemé, aux yeux vides, très voûté sur le clavier. Nassoua basse. Le grand maigre qui a les doigts sparadrapés. Claude Battery joue comme Elvin Jones. On a beau lui dire que cette manière ne convient pas au bop, mais ça fait rien. Ça fait rien. Pour l'instant, tous les trois jouent très bien. Ils en sont les premiers étonnés. Ils se regardent, se retiennent de rire. Yakada, yakada, kada, kada, yakada, yakada. Ça va vite. Ils ont pris ça sur un tempo un peu rapide. Loretou, alto et Georges, trompette vont devoir attaquer le thème à cette vitesse-là. Un thème de Parker, difficile, comme tous les thèmes de Parker. Voilà, Loretou regarde Georges. Il lui fait un signe de tête. Georges est très crispé. Il a gardé ses cheveux longs et sa barbe. Ils attaquent. Ça n'a pas loupé, enfin pas tout de suite. Les 8 premières mesures, l'unisson était bon. Les 8 suivantes, acceptable. Georges était déjà un peu paumé. Mais quand il a fallu jouer le pont, avec des traits en triple croche truffés de syncopes planqués dans tous les coins, il s'est cassé la gueule. Loretou a fini seul et il a pris le premier solo. Improviser à la suite d'un thème de Parker, c'est risqué, faut pas avoir peur. Parker lui-même n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'il a composé. Enfin, il ose. Loretou se lance, sur la pointe des pieds, avec des blancs, des notes. Un peu comme ce livre a commencé. Puis il resserre tout ça, attaque, doublant le tempo. Ça swing, c'est bien. Ça déménage, il le sent, le sait, construit sur son solo admirablement. On pourrait l'inscrire dans l'espace, il voit déjà la suite. Au passage suivant, le tempo toujours doublé, mais décalé. Il commence à se balader dans les harmonies, triturant des accords voisins, parallèles, latéraux, les élargissant, distordant, avec une aisance. Il a envie de montrer aux autres les progrès qu'il a faits. C'est de plus en plus complexe. Le pianiste a du mal à suivre, un peu comme Tommy Flanagan tourne derrière Coltrane dans Giant Steps. Mais Nassoy suit très bien. Il en profite pour gratouiller l'aigu véloce comme un cello. Claude, le batteur, aussi le suit. Ses relances sont parfaites, magnifiques. Et puis subitement, tout fout le camp, éclate, explose. Loreto se barre, au sens où un sujet se raye d'un trait, pour enfin se faire entendre comme il l'entend, comme il s'entend. Il laisse tomber les harmonies, le tempo, la structure, tout. Son sax se met à pousser des cris de fauve. Il geint, pleure, aboie, ulule, ricane, hurle. Il entend ses cris, répond à ses propres cris par des cris plus stridents encore. Claude suit, mais les deux autres, ils ne savent plus quoi faire. Être libre d'un seul coup les affole. Finalement, ils s'arrêtent. Claude, d'ailleurs, finit par s'arrêter aussi. Lui seul, peut-être, a bien compris qu'il fallait le laisser seul. Loreto ne se rend même pas compte qu'il joue seul. Georges le regarde. La figure de Loreto est ravagée par une espèce de rage. Il tape du pied. Sa tête va éclater. Son cœur, ses poumons brûlent. Il n'a plus de souffle. Il se calme, peu à peu. Comme un possédé, peu à peu se rend compte qu'il vocifère inutilement. Comme un enragé, peu à peu se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Peu à peu, Loreto se rend compte qu'il jouait seul, que depuis un moment, il était seul. Il s'arrête. Silence total. L'écume des jours, roman on ne peut plus célèbre de Boris Vian. Une incontournable histoire d'amour bercée de jazz, écrite en 1946.
Présentez-moi surtout à celle-là, dit Colin. Isis le secoua pour le faire tenir tranquille. « Voulez-vous être sage à la fin ?» Il en guettait déjà une autre et tirait sur la main de sa conductrice. « C'est Colin, » dit Isis. « Colin, je vous présente Chloé. » Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignet brûlé. « Bonjour, » dit Chloé. « Bonjour. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington ?» demanda Colin. Et puis il s'enfuit, parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une stupidité. Alice lui tapa le dos gentiment, et ça résonna comme un gong balinais. Du coup, tout le monde s'arrêta de danser pour passer à table. « Ça y est, » dit Chic, « on est tranquille. Si on mettait un bon disque ?» Il cligna de l'œil vers Colin. « Si on dansait un peu le bigle-moi » proposa Alice. Chic fourrageait dans la pile de disques près du pick-up. « Danse avec moi, Chic, » lui dit Alice. « Voilà, » dit Chic, « je mets un disque. » C'était un boogie-woogie. Chloé attendait. « Vous n'allez pas danser le bigle-moi là-dessus, » dit Colin, horrifié. « Pourquoi pas ?» demanda Chic. « Ne regardez pas ça, » dit-il à Chloé. Il inclina légèrement la tête et l'embrassa entre l'oreille et l'épaule. Elle frémit, mais ne retira pas sa tête. Colin ne retira pas ses lèvres non plus. Alice et Chic, cependant, se livraient à une remarquable démonstration de bigle-moi dans le style nègre. Le disque passa très vite. Alice se dégagea et chercha quoi mettre ensuite. Chic se laissa tomber sur un divan. Colin et Chloé se trouvaient devant lui. Il les attrapa par les jambes et les fit choir à ses côtés. « Alors, mes agneaux, » dit-il, « ça gaze ?» Colin s'assit et Chloé se nicha commodément près de lui. « Elle est gentille, cette petite fille, hein ?» dit Chic. Chloé sourit. Colin ne dit rien, mais passa son bras autour du cou de Chloé et se mit à jouer négligemment avec le premier bouton de sa robe qui s'ouvrait devant. Alice revenait. « Pousse-toi, Chic, je veux me mettre entre Colin et toi !» Elle avait bien choisi le disque. C'était Chloé, arrangée par Duke Ellington. Colin mordillait les cheveux de Chloé près de l'oreille. Il murmura « C'est exactement vous !» Et avant que Chloé ait eu le temps de répondre, tous les autres revinrent danser, se rendant compte à la longue que ce n'était pas du tout le moment de passer à table. « Oh !» dit Chloé. « Quel dommage !» Nous partons désormais aux États-Unis, emmenés par la jeune Simone de Beauvoir qui pose un regard pour le moins candide sur le jazz. En voiture, Simone !
Nous commandons des sodas. Nous buvons et nous regardons. Pas un visage blanc. En vérité, cet endroit n'est pas plus interdit que Lenox Avenue, mais seuls quelques fervents du jazz et des étrangers ont le goût de s'y aventurer. La plupart des femmes sont jeunes, elles portent des jupes simples et des petits pullovers, mais leurs souliers à talons hauts sont d'une recherche parfois biscornue. Le hâle léger ou sombre de leur peau habille mieux que des bas nylons leurs jambes nues. Beaucoup sont jolies, mais surtout, toutes semblent vivantes. Quelle différence avec la froideur guindée des Américaines blanches! Et quand on voit danser ces hommes dont la vie animale n'est pas étouffée par une armature de vertus puritaines, on comprend combien il peut entrer de jalousie sexuelle dans la haine que leur portent les Américains blancs au corps si gourd. Leur envie s'étend plus loin. Ils disent volontiers avec rancune « Ces gens-là sont plus libres et plus heureux que nous ». Il y a une vérité dans cette affirmation. Quelle gaieté, quelle liberté, quelle vie dans cette musique et dans cette danse! Cela me frappe d'autant plus que ce grand dancing a quelque chose de familial et de quotidien. À Paris, quand rue Blomet, les noirs dansent mêlés aux blancs, ils sont trop conscients d'eux-mêmes. Chez les femmes, surtout, la licence des gestes a quelque chose de provocant qui tourne facilement à l'obscénité. Ici, ils sont entre eux. Ils ne cherchent à produire aucun effet. Beaucoup de ces jeunes femmes appartiennent à des familles décentes et vont sans doute au temple le dimanche matin. Elles ont travaillé tout le jour et viennent se divertir paisiblement avec leur boyfriend. Ils dansent simplement, comme il leur est naturel de danser. Il faut une parfaite détente intérieure pour se laisser si totalement posséder par la musique et le rythme du jazz. C'est cette détente qui permet aussi le rêve, l'émotion, la flânerie, le rire, et qu'ignore la majorité des Américains blancs. Bien entendu, les racistes en tirent un argument. Pourquoi changer la condition des Noirs s'ils sont plus libres et plus heureux? J'écoute le jazz. Je regarde la danse, je bois du whisky. Je commence à aimer le whisky. Je me sens bien. Le Savoy est le plus grand dancing de New York, c'est-à-dire le plus grand du monde, et il y a dans cette affirmation quelque chose qui satisfait l'esprit. Et ce jazz est peut-être le meilleur du monde, en tout cas, en aucun endroit, il ne peut trouver plus pleinement sa vérité. Il la trouve dans la danse, dans le cœur, dans toute la vie des gens qui sont rassemblés là. Quand j'entendais du jazz à Paris, quand je voyais danser des Noirs, l'instant ne se suffisait jamais tout à fait à lui-même. Il m'annonçait autre chose, une réalité plus achevée dont il n'était qu'un incertain reflet. C'était juste cette nuit qu'il m'annonçait. Ici, je touche à quelque chose qui ne ramène à rien d'autre que soi. Je suis sorti de la caverne. De temps à autre, j'ai connu à New York cette plénitude que donne à l'âme délivrée la contemplation d'une pure idée. C'est là le plus grand miracle de ce voyage, et jamais il n'a été plus éblouissant qu'aujourd'hui. Et puis nous allons passer de Beauvoir à Sartre, donc, et dans La Nausée, publiée en 1938, l'irruption d'une mélodie de jazz permet au personnage de sortir, enfin, de son apathie.
Madeleine, est-ce que vous voulez que remette le disque ? Juste une fois, avant que je ne parte. Madeleine se met à rire. Elle tourne la manivelle, et voilà que ça recommence. Mais je ne pense plus à moi. Je pense à ce type de là-bas, qui a composé cet air, un jour de juillet, dans la chaleur noire de sa chambre. J'essaye de penser à lui à travers la mélodie, à travers les sons blancs et acidulés du saxophone. Il a fait ça. Il avait des ennuis, tout n'allait pas pour lui comme il aurait fallu, des notes à payer. Et puis il devait bien y avoir quelque part une femme qui ne pensait pas à lui de la façon qu'il aurait souhaité. Et puis il y avait cette terrible vague de chaleur qui transformait les hommes en mares de graisse fondante. Tout ça n'a rien de bien joli, ni de bien glorieux. Mais quand j'entends la chanson et que je pense que c'est ce type-là qui l'a faite, je trouve sa souffrance et sa transpiration émouvantes. Il a eu de la veine. Il n'a pas dû s'en rendre compte d'ailleurs. Il a dû penser « Avec un peu de veine, ce truc-là me rapportera bien $50 ». Eh bien, c'est la première fois depuis des années qu'un homme me paraît émouvant. Je voudrais savoir quelque chose sur ce type. Ça m'intéresserait d'apprendre le genre d'ennui qu'il avait, s'il avait une femme ou s'il vivait seul. Pas du tout par humanisme, au contraire, mais parce qu'il a fait ça. Je n'ai pas envie de le connaître, d'ailleurs il est peut-être mort. Juste d'obtenir quelques renseignements sur lui et de pouvoir penser à lui de temps en temps en écoutant ce disque. Voilà. Je suppose que ça ne le ferait ni chaud ni froid à ce type, si on lui disait qu'il y a, dans la 7e ville de France, aux abords de la gare, quelqu'un qui pense à lui. Mais moi, je serais heureux si j'étais à sa place. Je l'envie. Il faut que je parte. Je me lève, mais je reste un instant hésitant. Je voudrais entendre chanter la négresse, pour la dernière fois. Elle chante. En voilà deux qui sont sauvés, le juif et la négresse. Sauvés. Ils se sont peut-être crus perdus jusqu'au bout, noyés dans l'existence. Et pourtant, personne ne pourrait penser à moi comme je pense à eux, avec cette douceur. Personne, pas même Annie. Ils sont un peu pour moi comme des morts, un peu comme des héros de romans. Ils se sont lavés du péché d'exister. Pas complètement, bien sûr, mais tout autant qu'un homme peut faire. Cette idée me bouleverse tout d'un coup, parce que je n'espérais même plus ça. Je sens quelque chose qui me frôle timidement, et je n'ose pas bouger, parce que j'ai peur que ça ne s'en aille. Quelque chose que je ne connaissais plus. Une espèce de joie. Et maintenant, nous retournons à l'écume des jours.
Colin et Chic quittèrent la cuisine. « Prendras-tu un apéritif ?» demanda Colin. « Mon pianoctel est achevé. Tu pourrais l'essayer. »« Il marche ?» demanda Chic. « Parfaitement. J'ai eu du mal à le mettre au point, mais le résultat dépasse mes espérances. J'ai obtenu à partir de la Black and Tan Fantasy un mélange vraiment ahurissant. »« Quel est ton principe ?» demanda Chic. « À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de seltz, il faut un tri dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée. À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité, à la noire l'unité, à la ronde la quadruple unité. Lorsque l'on joue un air lent, un système de registre est mis en action, de façon que la dose ne soit pas augmentée, ce qui donnerait un cocktail trop abondant, mais la teneur en alcool. Et, suivant la durée de l'air, on peut, si l'on veut, faire varier la valeur de l'unité, la réduisant, par exemple, au centième, pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les harmonies au moyen d'un réglage latéral. C'est compliqué, dit Chic. Le tout est commandé par des contacts électriques. Et des relais. Je ne te donne pas de détails, tu connais ça. Et d'ailleurs, en plus, le piano fonctionne réellement. C'est merveilleux, dit Chic. Il n'y a qu'une chose gênante, dit Colin. C'est la pédale forte pour l'œuf battu. J'ai dû mettre un système d'enclenchement spécial parce que lorsque l'on joue un morceau trop hot, il tombe des morceaux d'omelette dans le cocktail et c'est dur à avaler. Je modifierai ça. Actuellement, il suffit de faire attention. Pour la crème fraîche, c'est le seul grave. Je vais m'en faire un sur Loveless Love, dit Chic. Ça va être terrible. Il est encore dans le débarras dont je me suis fait un atelier, dit Colin, parce que les plaques de protection ne sont pas vissées. Viens, on va y aller. Je le réglerai pour deux cocktails de 20 centilitres environ, pour commencer. Chic se mit au piano. À la fin de l'air, une partie du panneau de devant se rabattit d'un coup sec et une rangée de verres apparut. Deux d'entre eux étaient pleins à ras-bord d'une mixture appétissante. « J'ai eu peur, dit Colin. Un moment, tu as fait une fausse note. Heureusement, c'était dans l'harmonie. »« Ça tient compte de l'harmonie ?» dit Chic. « Pas pour tout, dit Colin. Ce serait trop compliqué. Il y a quelques servitudes seulement. Bois et viens à table. »
Le soir de vos fiançailles, dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Enlacez-vous, embrassez-vous, ma voix vous montre la voix lactée, la voix clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi. Dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi.
Le jazz est un peu, en musique, ce que la poésie surréaliste a été en littérature. En témoigne ce poème de Philippe Soupeau, construit comme un solo de saxophone, doux et embrumé.
Le nègre danse électriquement. As-tu donc oublié ton pays natal et la ville de Galveston? Que le banjo ricane, les vieillards s'en iront enfin le long des gratte-ciels, grimpent les ascenseurs. Les éclairs bondissent. Tiens, bonjour, mon cigare est allumé. J'ai du whisky plein mon verre, mon cigare est allumé, j'ai aussi mon revolver. Le barman a tort de sourire. On ne cherche plus à savoir l'heure, la porte, infatigable, les ampoules, ma main. n'est-ce pas ? Publié en 1971, Free Jazz Blank Power de Philippe Carl et Jean-Louis Comolli est, à travers l'analyse très poussée de l'irruption du free jazz aux États-Unis, un historique du jazz à partir de ses origines jusqu'aux années 1960, intense période de lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Nous avons ici un long poème en prose, à la manière d'Aimé Césaire, une déclaration de foi, une déclaration d'amour aussi, un plaidoyer pour le jazz comme musique vivante.
Qu'y a-t-il dans l'amour du jazz ? La beauté, l'émotion, la nostalgie, l'excitation, la jeunesse, la révolte, tout cela sans doute. Mais d'abord le goût des chemins nouveaux. Le vif désir de l'inouï. Non pas nécessairement des musiques neuves, des formes musicales inédites, mais une musique constamment nouvelle. Qui maintienne chez nous, au bout de la millième écoute, la certitude qu'elle s'avance pour la première fois. Et qu'elle pourrait être toute différente. Et que si elle ne l'est pas, que si elle est comme elle doit être et comme elle sera toujours, c'est aux beautés sans nom du hasard qu'elle le doit. S'il y a un enjeu dans la vie du jazz aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce que produire du neuf en musique, du nouveau dans le monde ? De nouvelles formes, de nouvelles beautés, de nouvelles émotions. Toujours, déjà, toujours le monde a été usé, aura été usé. Et toujours il se donne à nous comme renouveau. L'improvisation est une croyance, croire en la première fois. Qu'il y aura toujours de la première fois. Le jazz d'éternelle urgence est celui qui s'invente au jour le jour et non celui qui est monté en boucle sur les bandes des distributeurs automatiques de musique. Toutes les musiques, tous les jazz ne peuvent pas être montés en boucle. Il y en a de trop fragiles, qui menacent de casser. De trop forts, qui menacent de casser. Ce jazz-là, en instance de cassure, suppose qu'à un moment du travail de musique, le musicien comme l'auditeur, passe par la conscience aiguë que cela peut finir abruptement, d'un instant à l'autre, que le rien, que le silence, que la mort sont à portée de souffle et de notes. Cela peut finir, la menace, qui n'est plus un jeu, mais la fin du jeu. Cela peut finir veut dire que c'est fragile, que cela ne tient qu'à un fil entre la musique et nous, un fil tendu qui peut se rompre. Nous appelons cela improvisation. Il s'agit donc dans le jazz dit « free », d'une expérience de la fragilité des formes musicales. Naissance et mort, élan et chute, apparition-disparition, évanescence insaisie. Nous ne nous sentons jamais plus écoutants qu'avec ces formes elles-mêmes en danger, déséquilibrées, décalées, trouées, fragiles, faibles et belles de cette faiblesse même. Fragilité essentielle de la forme musicale présente dans le jazz plus que partout ailleurs. Jazz comme musique en lutte avec et contre le vent dans les champs et les bruits des villes, contre les machines et avec elles, avec et contre les silences intérieurs, les mutismes du corps, la peur au ventre, la rage de vivre. Cette fragilité essentielle est liée pour nous aux formes improvisées. Dans l'improvisation musicale telle que le jazz et plus encore le free jazz l'ont accompli au cours de ce siècle, se découvre la force de l'abandon. Parlons du free jazz. Le mot qui vient est abandon. On pourrait dire aussi s'offrir à l'abandon. Abandon de ce qui nous soumet aux programmes par lesquels s'exerce la domination sociale. Abandon des programmes qui pensent à notre place. Abandon des langages programmés. L'abandon de la partition n'est pas renoncement à l'écriture, mais s'offrir à une écriture liée à l'aléa du parcours réel. Il nous semble que ce qu'on a nommé free jazz s'oppose constamment à l'idée d'une musique qui puisse se dérouler sans crise, sans menace sur son propre parcours, sans miner sa propre scène. L'improvisation est ce qui lie la musique à l'accident qu'il y a à vivre. Nous allons à présent aborder des extraits d'une nouvelle peu connue de Boris Vian, « Martin m'a téléphoné ». Une véritable plongée au cœur de la scène musicale parisienne des années 1940.
Heinz et Martin ont fini leur truc. Aucun succès. On va jouer Dream de Johnny Mercer. Je prends ma trompette. Heinz, sa clarinette. Il y en a deux qui se mettent à danser et aussi la brune, et il arrive aussi quelques autres types. Peu. Il doit y avoir d'autres salles derrière. C'est fou ce que ça chauffe des radiateurs. Après Dream, un truc pour le réveiller. Margie. Je joue avec la sourdine, ils sont tellement peu à danser et puis ça sonne mieux avec la clarinette. J'accorde un peu la trompette, j'étais trop haut. Les pianos sont toujours trop hauts d'habitude, mais celui-ci est bas parce qu'il fait chaud. On ne se fatigue pas et ça danse sans grande conviction. La brune danse toujours, on s'arrête de jouer. Elle vient près du piano et demande à Martin de jouer Laura. Il connaît pas. Et alors Sentimental Journey? Bon, je fais la six demander, ils dansent tous. Quelle bande d'enflés! Est-ce qu'ils dansent pour les airs, pour les filles ou pour danser? Le colonel continue à se frotter. Une fille m'a dit l'autre jour qu'elle ne peut pas blairer les officiers américains. Ils parlent toujours politique et ils ne savent pas danser. Et en plus, ils sont emmerdants. C'était pas la peine, le reste suffit. Je suis un peu de son avis, jusqu'ici. J'aime mieux les soldats. Les officiers sont encore plus puants que les aspis français. Et pourtant, ça, c'est faire péter le chronomètre. Avec leur petit bâton à enculer les chevaux. Je suis assis sur une chaise genre rustique moyenâgeux, cous humain. C'est bougrement dur aux fesses. Si je me lève, gare au trou de mon pantalon. La brune revient, autre entretien avec Martin. Vieux salaud, tu les mettrais bien la main au panier, toi aussi. Je sais pourquoi il fait chaud et ça nous ragaillardit. D'habitude, sur le showboat, on les avait à zéro. C'est pas enthousiasmant pour jouer. Le temps, ça passe pas vite ce soir. C'est plus fatigant de jouer à trois. Et puis cette musique, c'est la barbe. On joue encore deux airs et on s'arrête un peu. On bouffe la tarte. On remet ça. La brune est là, elle veut I Dream of You. Ah, je la connais! Mais pas Martin. Ça ne fait rien, il lui propose Dream. On l'a déjà joué, et il attaque. Here I've said it again. Celui-là, je l'aime assez à cause du middle part, où l'on fait une jolie modulation de fin en si bémol, sans avoir l'air d'y toucher. Et puis on joue, et on s'arrête, et on rejoue, et on s'endort un peu. Il y a deux nouvelles filles, elles sont crasseuses, sûrement des françaises. Et Détinia Sirsute, l'air de dactylo intellectuel matiné de boniche. Tout de suite, il faut qu'elles viennent nous demander du musette. Et pour les faire râler, on joue le petit vin blanc en swing. Elles ne reconnaissent même pas l'air. Quelle noix. Si, juste à la fin, elles font une sale gueule. Les Américains, ils s'en foutent. Ils aiment tout ce qui est moche. Je crois que ça se tire. Il est plus de minuit, on a joué des tas de vieilles conneries. On joue et il finit par être une heure. On ferme par Good Night Sweetheart. C'est marre, on s'en va. Encore un. On joue de nouveau Sentimental Journey. Ça les trouble que ce soit le dernier, ils sont tendres. Maintenant, il faut penser à partir. On va se rhabiller. Froid dans le couloir et l'entrée. Je mets mon impair, Martin me fait signe, il est avec Heinz. Bon, il me file 700 balles, j'ai compris, tu gardes le reste, t'es un salaud. Je pisse contre un arbre. Arrivent les deux boniches dactylo et un américain. C'est lui le conducteur. Nous trois derrière, lui devant avec les deux filles. Elles râlent parce qu'elles sont trop serrées. Moi, je m'en fous considérablement, je suis très bien. Elles mettent la radio en marche, on démarre. Ça arrache dur. On suit une autre bagnole. La musique, ça fait passer le temps. C'est un jazz blanc. Ça swing assez froid, mais c'est drôlement en place. La bagnole marche, je dis à Heinz, je me baladerai bien comme ça toute la nuit. Et lui aime mieux aller se coucher. Paris, Concorde, rue Royale, boulevard, Vivienne, Bourse, stop.
Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci à Pierre et Rémi pour la lecture. Pour les musiques, c'était Chloé de Duke Ellington, Dansez sur moi de Nougaro et du Charlie Parker. Nous vous attendons nombreux pour le prochain épisode des Yeux ont des oreilles qui se déroulera en direct le 8 décembre.